France Inter.
Aujourd'hui, un appel à la désertion, raconté par
Jeanne Mermet, ingénieure déserteuse, autrice et activiste.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
J'ai voulu écrire comme on dégueule, comme parfois c'est le chaos dans ma tête et dans mon corps, mais ça marche pas toujours comme ça. Il y a l'intellect, il y a la pensée, il y a les autres pensées, il y a le choix des mots, il y a ce sentiment d'avoir à se justifier, d'être là à vous parler, il y a ce besoin d'être approuvé, légitimé et l'envie de tout faire péter. L'envie d'écrire comme je parle, comme je m'enflamme quand je m'embarque dans un pamphlet acide et caustique. Sauf que là, il y a un écran et ces mots à mettre les uns après les autres en émotion, en image, en réflexion, dans un ensemble cohérent, enivrant, si seulement. Je veux vous parler de désertion, je veux vous parler de travail, je veux vous parler de classe sociale, je veux vous parler de pouvoir, je veux vous parler de choix, je veux parler de guerre, celle que je veux déserter, mais qui est là, où que je sois, et de celle sur les corps, celle qui les assigne à une place et qui les frappe s'ils en dévient. Je veux parler d'injustice, de certaines que je vois, mais ne vis pas. Je veux parler de privilèges et de subversion, d'oppression et de résistance, de révolution. Et je suis qui pour parler de tout ça? Le fruit de fils, de liens, de réseaux, une succession de rencontres, de discussions, de réflexions. Un jour, j'ai décidé de ne pas travailler, ou plutôt de faire exactement l'inverse de ce à quoi j'ai été formé, sans cadre professionnel. Parce que je fais partie de ces personnes qui ont le choix. Alors je me suis engagé dans plein de trucs, de groupes, de collectifs, d'activisme, et j'ai fini par croiser le chemin de gens qui travaillent dans des maisons d'édition, et qui se sont dit « Tiens, ça serait bien de sortir un livre » sur ce qu'il se passe là, la désertion des jeunes ingénieurs qui ne veulent plus participer. Il se passe quelque chose, non? C'est certainement pas les seuls qui se sont dit ça, mais moi j'étais là et puis j'ai dit oui. J'en suis de ces mouvements et puis j'ai quelques trucs à dire tout en me demandant à quoi ça sert d'écrire un livre. Bonjour Jeanne Mermet.
Bonjour.
Ces lignes sont extraites de l'introduction de votre livre « Désertons » publié au Lien qui libère et chez Wild Project. Est-ce que ça vous a servi d'écrire un livre, in fine ?
La grande question. Est-ce que ça m'a servi ? Ben, je pense que j'ai toujours vu cet exercice et un livre comme un outil. Un outil, oui, c'est évidemment un outil de pour expliquer sa pensée, pour diffuser des idées. Mais moi, je vois ce livre comme un outil pour s'organiser, pour venir parler avec plein de gens différents, pour venir se poser des questions. Donc voilà, c'est pour ça que je parle que je me pose la question à quoi ça sert, parce que je me suis posé cette question dès le départ. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt comme un outil, oui.
C'est un manuel de combat carrément, cet ouvrage.
Ça pourrait.
On parle de guerre, hein, on va en parler avec vous dans un instant. Ancien élève donc de l'école polytechnique et de l'université technique du Danemark, vous auriez pu suivre une voie royale dans l'ingénierie énergétique, mais en 2019, vous avez quitté ce monde que vous avez jugé complice justement d'une guerre menée contre le vivant. Pourquoi d'abord cette volonté de vous situer socialement au début de votre livre, avant même de parler de désertion ?
Alors pour moi, c'était vraiment primordial de faire cet exercice-là, de se situer. Et donc j'ai voulu le faire d'une manière un peu assez, on va dire, personnelle dans ce premier chapitre qui est sorti un peu comme ça, de manière assez fleuve et vive. Pourquoi c'est important de se situer ? Parce qu'il y a quand même un message dans mon livre qui est celui de comprendre les différentes classes sociales, de comprendre les différents systèmes d'oppression, de domination, dans lesquelles on évolue, dans laquelle notre société est construite. Et pour moi, il est important de se situer pour justement voir dans nos actions quelles actions vont pouvoir vraiment provoquer du changement, ou est-ce que des actions parfois vont pouvoir finalement maintenir le statu quo. Parce que quand on ne voit pas justement ces classes, ces systèmes, on va peut-être se penser agir pour l'intérêt général et finalement, on va se retrouver à agir pour l'intérêt d'une certaine classe.
Et c'est quoi votre milieu alors, pour bien le comprendre et bien le cerner?
Moi, je viens d'un milieu, j'ai grandi dans un milieu aisé, de classe moyenne supérieure, on va dire, avec un père ingénieur et une mère psychologue. J'ai jamais eu à me soucier de la sécurité financière de ma famille. J'ai eu accès à des activités culturelles, sportives. Voilà, donc c'est tous ces privilèges-là dont j'ai bénéficié. J'ai pu me rendre compte, mais a posteriori, que c'était des privilèges, parce que souvent, quand on bénéficie de privilèges ou quand on va dire qu'on est du côté plus des dominations, on ne se rend pas forcément compte de ces positions.
Et on ne déserte pas de la même manière.
Voilà, c'est ça. Et on n'a pas les mêmes choix qui nous sont accessibles. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire dans ce livre, essayer de creuser. Je me suis posé cette question-là. Mais quelle est ma classe ? Suis-je bourgeoise ou suis-je prolétaire ? Est-ce qu'il n'y a que ces deux grands blocs dans la société de classe ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas toutes les questions de genre, de racisme, de classe qui s'entremêlent ? Comment on fait pour comprendre d'où on est issu, de quoi on est issu ? Donc c'est pour ça que j'ai voulu creuser un peu aussi l'histoire de ma famille en faisant ce dialogue avec ma grand-mère.
Donc on parlera de votre grand-mère tout à l'heure. Durant vos études, à quel moment, Jeanne Mermet, la crise écologique a cessé finalement d'être une sorte d'abstraction pour devenir, pour vous en tout cas, un vrai conflit intérieur ?
Alors ça s'est passé plutôt à la toute fin de mes études, donc c'est la dernière année de mes études où j'étais au Danemark dans un master spécialisé sur les énergies renouvelables et notamment la gestion et le développement des réseaux électriques pour la transition énergétique. Alors avant ça, la crise écologique était présente et c'est pour ça que je me suis orientée vers les énergies renouvelables, mais c'était dans une réflexion assez superficielle, on va dire, qui était celle assez facile et techniciste de se dire il y a un problème de réchauffement climatique, ce problème il est causé par les émissions carbone, donc il faut faire des énergies décarbonées, donc faisons des énergies renouvelables. Voilà, c'était un peu
plutôt, et on a trouvé la solution au problème.
Ça s'arrêtait un peu là, et donc je suis allée au Danemark pour me spécialiser là-dedans, et durant cette dernière année d'études, j'ai pu en même temps m'investir dans des groupes d'activisme climatique au Danemark, et donc aussi me former à ces enjeux-là en dehors de mes études, et donc mettre un peu en relief ce que j'apprenais, la manière dont on a de solutionner, entre guillemets, ce problème climatique, et de le problématiser déjà, puis de vouloir le solutionner. Les problèmes climatiques et la manière dont je comprenais qu'il y avait quand même tout un tas de choses que j'avais pas appris.
Donc il y a eu une petite dissonance qui a commencé à émerger à ce moment-là.
C'est ça. Cette dissonance, elle a commencé à grandir parce que du coup, je modélisais les solutions, c'est-à-dire rajouter des énergies renouvelables et différentes technologies sur le réseau électrique pour permettre l'intégration massive d'énergies décarbonées sur ce réseau. Et en même temps, j'apprenais que ces énergies décarbonées, elles impliquent d'utiliser une quantité énorme de minerais, de métaux, et dont les conditions d'extraction se font de manière absolument pas écologique et même avec des désastres, dégâts humains considérables.
Voilà. Donc là, vous réalisez que finalement, cet extractivisme ne sera jamais, en tout cas, la solution écologique et sociale.
Voilà, et donc je réalise que qu'on est déjà dans un monde basé sur l'extractivisme et que cette transition énergétique que je modélise, elle va devoir encore plus renforcer ces dépendances-là et que la manière dont c'est organisé, c'est par l'accaparement des ressources, par un système global, économique et colonial d'approvisionnement de matières premières. Pour moi, à ce moment-là, on ne remet pas du tout en question ça dans ce que je modélise, dans mes études, donc j'étais aussi assistante de recherche en même temps, je travaillais donc dans le labo où je faisais mon projet de fin d'études, et donc c'est à ce moment-là que j'essayais moi un peu de problématiser ça, mais j'avais beaucoup de mal parce que c'est un peu des gros tabous, on se convainc que c'est ça les solutions, et on a vraiment du mal à aller chercher vraiment quels sont les prérequis socio-économiques pour l'implémentation de cette transition, de l'apport de nouvelles technologies, etc. Donc là j'ai eu besoin de faire une coupure pour pouvoir vraiment prendre du recul par rapport à tout ça et comprendre mieux de quoi il en retourne.
On est en quelle année, là, précisément ?
À ce moment-là, on est en 2018-2019, ouais. Donc la dernière année, oui, c'est ça, que je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça.
Voilà. Et avant votre propre désertion, après votre propre désertion, un événement a marqué toute une génération d'ingénieurs, celui du discours des agros qui bifurquent. Là, on est en 2022,
ouais.
Et on va écouter un extrait.
Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières.
Voilà, 2022, ces agros qui bifurquent. Vous parlez de désertion, on parle de bifurcation. Est-ce qu'on parle de la même chose, a priori, ou pas ?
Alors, ça, pas forcément. Bah, d'ailleurs, il parle quand même de désertion. En fait, je me rappelle à ce moment-là, moi, j'avais déjà un peu rencontré des gens avec qui on a commencé à s'organiser sur ces questions-là. En fait, on s'est rencontrés dans les luttes, dans des camps militants antinucléaires, un peu à droite à gauche, luttes écologistes et sociales. Et donc, on a commencé à se poser ces questions, c'est marrant, on a fait ces études scientifiques ou d'ingénieurs, et là, on remet un peu ça en question et on se retrouve un peu dans le camp opposé, on va dire, au projet qu'on aurait pu mener dans notre métier. Et donc on a voulu un peu réfléchir à cette question-là, c'est quoi le rôle des ingénieurs, qu'est-ce que ces métiers font, en fait, au-delà de l'image qu'on en a, un peu de bienfaiteurs et de porteurs du progrès social.
Mais quand ces jeunes-là font ces discours, ouais, qui ont été très médiatisés à l'époque, hein, on avait vraiment l'impression de voir un mouvement apparaître. Vous ressentez quoi, en fait, Jeanne Mermet, à ce moment-là?
À ce moment-là, nous, on est... c'est vrai que ça a été... étonnant, ce buzz, en fait, qui a eu à la suite de ce discours. Je pense que je trouvais leur discours rafraîchissant par leur radicalité, parce que il y a eu d'autres discours avant, il y en a eu quelques-uns dans les années qui ont précédé, qui peut-être étaient un peu plus consensuels, qui disaient moins les gros mots, croissance verte, ordre social dominant. C'est fort quand même pour des gens qui sont justement formés à maintenir cet ordre social dominant. Donc c'est peut-être dans la radicalité et dans le se placer, encore une fois, la question de se situer et se placer au centre de cette critique qui a fait que ça a suscité tant de réactions. Donc il y a la bifurcation, donc il y avait un peu justement ces tensions entre le mot déserté, qui pour nous était peut-être un peu plus signifié, peut-être un refus plus politique de vraiment se détacher de ce rôle de complice. Il y a bifurqué, qui est peut-être un peu plus, on compose, on change de métier, on change de parcours, on essaye d'aller voir d'autres secteurs. Je sais pas, il y a un peu, on peut essayer de justement définir un peu mieux ces termes.
Mais déserté, ça renvoie à la guerre.
Voilà,
quoi,
c'est ça. C'était vraiment, et c'est intéressant, on va pouvoir en reparler, mais justement, cette question de la guerre, parce que c'était vraiment, je pense, pour cette portée politique forte qu'on a utilisé ce mot, et de dire on refuse la guerre aux vivants. Et donc, en écrivant ce livre, j'ai voulu essayer de comprendre alors quelle est cette guerre ? Qu'est-ce qu'on déserte ? Où on va ou après ? Qu'est-ce qu'on veut déserter ? Pourquoi on parle de guerre aux vivants comme si c'était une métaphore, alors qu'en fait, en travaillant sur cette question-là, je me suis rendu compte que guerre aux vivants et guerre militaire, en fait, c'est la même chose. Et donc, et notamment sur la question de transition énergétique et d'extractivisme. Donc la guerre, c'est quand même un peu la condition et la cause de la guerre aux vivants et des destructions écologiques.
On va en parler avec vous dans un instant. Une fois le geste posé, reste à comprendre ce que l'on quitte vraiment, ce qui a été aussi votre cas. On va voir que la désertion suppose aussi d'interroger pas mal de choses autour de soi. On en parle avec vous, Jeanne Mermet, dans un instant. Et puis vous réagirez également aux messages et aux réactions de nos amis auditeurs et auditrices qui nous rejoignent sur la page de La Terre au Carré, sur franceinter.fr, sur nos réseaux sociaux, et avec vos notes vocales sur l'application Radio France.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je pourrais préciser que la raison pour laquelle au début j'ai interrompu mon activité de recherche, c'était parce que je me rendais compte qu'il y avait des problèmes si urgents à résoudre concernant la crise de survie que ça me semblait de la folie de gaspiller des forces à faire la recherche scientifique.
La voix du mathématicien Alexandre Grothendieck, auquel on a consacré d'ailleurs une émission la semaine dernière. C'était lors d'une conférence en janvier 72 au CERN de Genève. Jeanne Mermet, vous qui êtes notre invitée avec cet ouvrage « Désertons » publié au Lien qui libère et Wild Project. Est-ce que vous vous sentez une héritière de Grothendieck?
Je pourrais. C'est quand même intéressant de rappeler que même si là, ce mot désertion, la désertion a fait beaucoup de bruit de manière
ces
très récente,
années,
c'est
ouais.
quand même tout un, c'est quand même un héritage. On est quand même, je pense, un héritage d'un mouvement qui est assez ancien. Et puis, en fait, des soldats qui refusaient d'aller à la guerre, il y en a toujours eu. Donc voilà. Mais concernant la science et justement cette question de politiser la science et de sortir un peu de cette prétendue neutralité, c'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'Alexandre Grothendieck l'a bien dit, qu'une technologie soit une menace à la survie de la planète et de l'humanité, ben ce n'est pas, c'est une situation qui est de règle, c'est pas une exception. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, ben c'est un peu tout l'enjeu de se dire comment déserter, en fait, dans le sens de... ne pas nuire, refuser de nuire, refuser de fabriquer des violences. Pour moi, cette déserter, ce n'est pas juste partir, c'est une question qui devrait se poser collectivement à partir de la science, à partir de la recherche, dans les universités, dans les industries, de comment on peut s'organiser pour refuser de fabriquer ces violences. Mais d'abord, il faut les visibiliser. Le problème aujourd'hui avec la fabrique de la guerre, c'est que elle est invisible et elle se déguise souvent derrière d'autres applications civiles, plutôt à valeur sociale ou écologique. Et donc, il y a un réel enjeu à venir lever le voile sur la fabrique ouais. de la guerre et la participation de la science et des techniques à la fabrication de violences écologiques, sociales et d'armes.
Cette action, justement, de désertion, Jeanne Mermet, est-ce que quand vous regardez votre propre parcours, quand vous revenez là-dessus, est-ce que vous avez le sentiment que ça a été facile à faire? Est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic et vous ne vous êtes posé aucune question? Ou est-ce qu'au contraire, le processus a été plutôt assez long?
J'ai l'impression qu'il a été facile sur le moment et qu'il devient un peu de plus en plus difficile.
Aujourd'hui?
On peut dire ça. Parce
c'est
que,
vrai
ben, c'est, je pense que sur le moment, j'étais très certaine d'avoir besoin de cette rupture assez radicale. Et là, c'est ma propre expérience. Et évidemment, tout le monde va avoir différentes contraintes et différents parcours et différents chemins. C'est des cheminements personnels aussi hein, qui se font là, se politiser, découvrir des choses, se déconstruire, comprendre le monde. Bah, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein, c'est sûr. Donc moi, à ce moment-là, j'avais l'impression de plus rien comprendre, donc il fallait vraiment que j'aille ailleurs pour vraiment me m'ouvrir à d'autres mondes, comprendre les choses d'un autre point de vue, etc.
Pourquoi vous dites que c'est plus difficile aujourd'hui?
Parce que ben, j'ai l'impression, comme je le dis, hein, je l'évoque à un moment dans le livre, c'est marrant d'avoir un peu... Donc j'ai voulu quitter une dissonance qui était celle d'exercer un métier qui allait à l'encontre de ce que je pense nécessaire de faire aujourd'hui dans le monde, et donc plus j'essaye, j'ai pas déserté complètement les thématiques de l'énergie, de la guerre, etc. Et plus j'essaye de comprendre, moi je me suis tournée un peu, j'ai fait un peu mes recherches personnelles sur les sciences des systèmes complexes, pourquoi on est dans une trajectoire qui a l'air lancée à toute vitesse, et impossible, de laquelle il est très dur de dévier, de sortir, trajectoire sociétale. Hein. Et donc j'ai l'impression que parfois, plus on va essayer de comprendre, plus on va se rendre compte que... c'est dur quand même, et ouais. on est dans des verrous et dans des niveaux de violence quand même assez énormes aujourd'hui dans le monde, et on en dépend. Et c'est là que ça peut être difficile de savoir où se mettre, à quoi je peux moi aujourd'hui apporter mes connaissances, mes compétences, mon énergie. C'est là que c'est peut-être un peu dur, et peut-être que ce parcours il est intéressant, mais en même temps compliqué parce que comment à
oui.
partir de
il est sinueux,
à partir de ce gros pas de côté maintenant je cherche à me mettre là où mais en même temps faut le redire, c'est aussi une chance, c'est en même temps compliqué mais en même temps une chance et un privilège, cette possibilité d'explorer, d'avoir pu dévier un moment de cette trajectoire. Et aujourd'hui maintenant c'est comment je trouve où être voilà, où se mettre, quoi, tout simplement. Ouais.
Comment, mais de la difficulté de quitter ce qu'on disait tout à l'heure, la voie royale, hein, celle vraiment qui était prédéfinie pour vous en tant qu'ingénieur, et de reconstruire à côté quelque chose qui vous donne aussi du sens à vous, j'imagine.
Oui, il y a toujours cette histoire de sens, mais voilà, en même temps, je pense que cette question du sens, que ce soit du travail ou de la place, juste la place qu'on a dans la société, qui est quand même principalement aujourd'hui, pour la plupart des gens, déterminée par le travail qu'on va exercer, elle se pose à tous les endroits. Et je pense que à partir de ce mouvement de désertion, en tout cas, on va dire d'abord phénomène de personnes issues de grandes écoles qui décident de déserter, de quitter leur métier, je pense que c'est aussi l'occasion, et c'est ce que j'ai voulu faire en terminant ce livre avec le travail comme champ de bataille, c'est aussi l'occasion de dire, mais quel est le sens du travail aujourd'hui en général? Combien de personnes peuvent prétendre trouver du sens à ce qu'ils et elles font toute la journée et ne pas en plus en subir de préjudices, qu'ils soient physiques ou moraux. Voilà, c'est peut-être la question aujourd'hui qu'il faut se poser à l'échelle de la société. Pourquoi on travaille, à quoi ça sert et à quoi on aimerait mettre notre temps, quoi, en général.
Jeanne Mermet, pourquoi vous avez choisi d'adresser ce livre à votre grand-mère? Qu'est-ce qu'elle faisait, votre grand-mère?
Ma grand-mère était institutrice dans les montagnes du Jura.
Ouais.
Donc, j'ai voulu lui adresser un chapitre en imaginant un dialogue entre elle et moi, parce que...
Qu'est-ce qu'elle symbolise, au fond, votre grand-mère?
Voilà, en fait, elle a élevé ses quatre enfants, ses quatre fils, toute seule. Elle était issue d'un milieu plutôt d'ouvriers artisans, donc des montagnes du Jura. Et pour elle, c'était fondamental que ses enfants fassent ces études-là, accèdent à une situation, comme elle le disait, il faut avoir une situation. Et donc, progressent socialement. Voilà, donc j'ai voulu parler de ça dans ce livre, parce que c'est le choix que j'ai fait de ne pas exercer le métier d'ingénieur. J'ai pas eu le temps de lui en parler, de pouvoir échanger avec elle sur cette autre forme d'engagement que j'ai choisi en dehors du travail, ou en tout cas dans une autre manière de travailler. Et voilà, je trouvais intéressant à travers ce dialogue, dessiner un peu des lignes de crête, de peut-être de différences de compréhension entre les générations, où le travail est au centre, mais en même temps, il y a d'autres manières de s'activer, et où comment elle a vécu, interroger comment elle a vu dans un siècle de vie, le monde changer à partir de sa vie à elle, dans les montagnes du Jura,
de cette génération qui était basée sur beaucoup, qui croyait énormément à la méritocratie républicaine.
Voilà, exactement.
Quand même,
Donc il y a tout le mythe de la méritocratie derrière, où elle était institutrice, elle croyait en l'école républicaine, l'égalité des chances, et finalement après, donc moi par mes recherches et par avoir compris quelle était cette école de laquelle je sortais, Polytechnique, et qu'est-ce que ça représente dans un système scolaire élitiste qui produit en fait des inégalités depuis l'école. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de cette école, est-ce que la méritocratie, qu'est-ce que c'est que ce mythe là du progrès social, du progrès de la méritocratie, etc.
Jeanne Mermet, votre livre est traversé par la question du genre, parce que déserter, c'est aussi se libérer du monde des hommes.
Il y avait de ça aussi, j'ai pas énormément creusé cette question, je pense que c'est peut-être encore en chemin et ça va me prendre un peu du temps, mais je pense que quand on sort d'une école d'ingénieur où il y a 15% de femmes, en effet, on se plie un peu à un
On est dans des rapports de domination qui sont omniprésents.
Comment dire, moi j'ai l'impression que je me suis plus intégrer et plier peut-être un contexte plus masculiniste, j'en sais rien, et que j'ai plus mis des œillères et me suis adaptée, quoi. Et ça, c'est une question que j'ai pas encore bien abordée et que ça viendra, mais oui. Et aussi, à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup, en fait. C'est un peu après, quelques années après, qu'il y a eu beaucoup de témoignages sur le sexisme, sur les agressions, sur les violences sexistes et sexuelles dans les écoles d'ingénieurs, et voilà, donc il faut continuer aussi à invisibiliser tout ça.
Vous parlez beaucoup de la colère également dans cet ouvrage. La bonne colère, si j'ose dire, ça peut devenir aussi une énergie politique dont on peut se servir. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui ?
Qu'est-ce que c'est la bonne colère?
Mais justement, savoir comment la transformer.
Ouais, ouais, ouais. Bah oui, je pense que la colère est nécessaire. Enfin, elle n'est pas nécessaire, elle est juste là. C'est comme les violences, je veux dire, elles sont là. Et il y a des violences acceptables, des violences non acceptables, des violences invisibles, normales, et des violences voilà, auxquelles on réagit fortement. Et aujourd'hui, je pense que... on a le droit d'être en colère, les gens ont le droit d'être en colère, et ensuite c'est comment on change cette colère en action et comment justement on se retrouve aussi. Mmh. Parce que pour moi le collectif il aide justement à dépasser, enfin à transformer cette colère en action.
Justement, puisque vous parlez du collectif, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de communauté qui est en train de naître là depuis ces dernières années avec d'autres déserteurs, et quel regard vous portez sur...
Alors, ouais, je pense que c'est une communauté, c'est peut-être tout un réseau qui prend différentes formes. Je dirais c'est tout un réseau de gens qui veulent faire des sciences et techniques engagées et dont la désertion, enfin ce geste de désertion, de quitter un métier, dans le sens quitter un métier, fait partie. Mais il y a énormément de gens qui sont chercheurs, enseignants chercheurs, ou bien qui travaillent dans les industries, etc., qui cherchent à justement faire du collectif, à politiser, à voir, à se situer justement et à comprendre qu'est-ce qu'il perpétue comme système, comme inégalité, etc. Et du coup, je pense que ce réseau, il faut continuer de l'animer, de le relier et de se poser la question de comment déserter collectivement dans le sens de refuser de nuire.
Je vous demandais d'ailleurs, hors antenne, s'il y avait une littérature scientifique sur le phénomène. Est-ce qu'on arrive à le quantifier aujourd'hui? Est-ce que les sciences humaines font ce travail-là? C'est compliqué pour l'instant d'estimer, en tout cas.
Alors, il me semble
le phénomène de la désertion.
Il me semble qu'il n'y a pas forcément d'études qui quantifient. Alors justement, appel aux auditeurs à peut-être
des SHS à
venir faire une étude sur le sujet. Moi, ce que j'avais trouvé, c'était plutôt des sondages, des entreprises ou des grandes écoles qui essayent de comprendre où veulent aller les élèves, quels sont les critères pour le choix d'un métier des élèves. Donc c'était plutôt, il n'y a pas vraiment de phénomène massif de désertion, mais plutôt on va pas vouloir aller bosser pour des industries polluantes, etc. Après, les industries polluantes sont assez fortes pour formuler à travers des fois la RSE, à travers leur communication et beaucoup de greenwashing. Parenthèse, Total a été jugé pour greenwashing récemment. Donc voilà,
il y a 15 jours.
Notifié, donc c'est parfois difficile d'aller au-delà de cette com. Ensuite, il y a plus des statistiques générales sur le rapport au travail, les démissions par génération. Mais voilà, je ne sais pas si ce phénomène a été exactement quantifié en termes de gens qui sortent de grandes écoles, en tout cas.
Désertons, Jeanne Mermet, c'est votre ouvrage. On en parle à nouveau dans la troisième partie de cette émission. Et puis vous répondrez aux messages, aux témoignages peut-être aussi qui arrivent sur la page de la Terre au Carré et nos réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au Carré.
Cette alliance-là, c'est la meilleure des alliances qu'on puisse trouver pour combattre notre propre patron, notre propre exploitation. Parce que le discours des patrons, c'est de vouloir faire la transition écologique et nous, ensemble, avec les militants écolos, dénoncer le rôle du capitalisme et le rôle, en fait, du patronat dans cette double exploitation de la terre et des travailleurs. C'est pour nous la meilleure des armes.
Et l'homme qui parle n'a pas n'importe quel patron, puisque son nom est Adrien Cornet. Il est pompier à la raffinerie Total Énergie de Grandpuy. C'est aussi un militant CGT et membre de Révolution Permanente, Jeanne Mermet, vous qui êtes notre invité, avec cet ouvrage « Désertons » publié au Lien qui libère et Wild Project. Un commentaire sur ce que vous venez d'entendre dans la bouche d'Adrien Cornet?
Et oui, et bien effectivement, oui, c'est, je pense que là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de venir... renforcer, créer, puis renforcer des alliances. Donc, notamment, il parle de l'alliance entre le mouvement écologiste et le mouvement ouvrier, là où on nous place dans des clivages, justement, alors qu'on devrait lutter ensemble à formuler d'autres projets de société, à transformer l'outil de production et à faire une réelle transition écologique et juste socialement.
Ils sont construits, ces clivages?
Je pense qu'ils sont... construit dans le sens où souvent on va un peu catégoriser les écolos, donc les écolos veulent dénoncent les industries polluantes et donc on va les placer contre les travailleurs qui travaillent dans ces mêmes industries en disant ils veulent juste fermer les usines et que les travailleurs perdent leur travail, et à l'inverse on va dire des travailleurs qui sont pas du tout sensibles aux problématiques écologiques, alors que c'est quand même eux qui sont le plus souvent en première ligne pour se prendre justement les violences écologiques, les pollutions, etc.
Sauf que, est-ce que ça prend entre le monde ouvrier et le monde écolo, par exemple ?
Du coup, l'exemple de la lutte sur la raffinerie de Grandpuy et les raffineries Total en général est un bon exemple de pour montrer ça. C'est qu'il y a eu justement un rapprochement du mouvement ouvrier de lutte contre du coup, la perte des emplois créée par la conversion entre guillemets écologique des raffineries Total, donc je rappelle qu'ils en fait veulent changer les matières premières qui sont le pétrole, les hydrocarbures, pour les remplacer par des matières végétales et animales. Donc pour dire que ça sera écologique parce qu'on utilise des matières organiques comme matières premières. Donc les ouvriers et les mouvements, les associations écologistes se sont regroupés pour montrer que non, ça n'était pas écologique parce que ça génère déjà d'en plus de dépendance à l'agriculture industrielle qui n'est pas écologique non plus. Voilà, donc il y a vraiment ce mouvement à continuer, à rapprocher justement pour dire battons-nous ensemble pour la santé des personnes, des écosystèmes. C'est quand même là qu'il y a le point de convergence.
Et selon vous, la grève est en train de prendre ?
Je pense qu'il faut continuer. Je pense que c'est pas fini. Je trouve que c'est déjà bien tard pour commencer à faire ça. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là. On va parler de redirection écologique, de comment on pense les reconversions des industries, non pas en les laissant aux mains des patrons et des multinationales qui, elles, vont d'ailleurs souvent utiliser la transition écologique comme argument pour transformer leur outil de production et générer plus d'injustice. Donc c'est comment on prend la question du travail, la question écologique dans son ensemble. Et je pense que là, j'y rajouterai, il y a des alliances.
Qui s'en occupe de ça aujourd'hui ? C'est les associations militantes ?
Vous voyez bien les mouvements syndicalistes. Alors, pas tous, évidemment. Il y a aussi tout un ensemble de différentes positions hein, dans les mouvements syndicalistes. Mais il commence à y avoir des propositions dans la CGT, donc avec aussi des mouvements, des grandes associations environnementale. Moi, je pense que c'est encore pas assez et qu'il faut continuer. Et il faut aussi, je pense, il y a aussi toute la question de justement des ingénieurs qui désertent ou pas d'ailleurs. Et où là, il y a eu un enjeu aussi à faire des alliances qui viendraient transcender un peu et court-circuiter la hiérarchie, la chaîne de direction, on va dire, et de dire les ingénieurs et les ouvriers et les écologistes, etc., peuvent se mettre ensemble et au plus près des territoires et des réalités sociale, tout en articulant les échelles, évidemment, parce que ça ne peut pas rester sur le local, et formuler de réels projets de transition justes.
Adrien Cornet nous disait combattre son propre patron. Tout ça va devenir un vrai champ de bataille, vous qui êtes dans le langage guerrier, Jeanne Mermet, dans cet ouvrage.
Et oui, vous me direz, c'est un peu paradoxal que j'utilise ce langage guerrier alors que je milite contre la guerre, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu à se situer dans des rapports de force. Aujourd'hui, les solutions, elles sont là. Il y a plein de propositions qui existent. On peut proposer de réduire le temps de travail, ce qui résoudrait la majorité des problèmes écologiques et climatiques. On peut proposer de changer, de créer des fonds de conversion écologique. On peut proposer de reprendre l'argent des riches, ce qui est proposé, mais pas
c'est,
vraiment...
C'est compliqué, là. On a vu la taxe
Zucman. C'est compliqué. Hein. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des rapports de force et que c'est de vrais rapports de force. Et là où je dirais que les ingénieurs qui font partie d'une sous-bourgeoisie scientifique et technique doivent se situer dans ces rapports de force et changer d'allégeance et rejoindre vraiment les luttes, les rapports de force, les piquets de grève, les grèves, les blocages, déserter s'ils elles le veulent, mais tout en comprenant qu'est-ce qu'ils continuent d'entretenir, même dans leur désertion. Et voilà, pour vraiment pouvoir faire force.
Jeanne Mermet, avant de passer aux questions, parce qu'elles sont nombreuses, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? C'est quoi votre métier, finalement ?
Quel est mon métier ? Ouais. Alors, j'essaye un peu de fabriquer mon métier, on va dire.
Ou comment vous vous projetez dans l'avenir, peut-être ?
Voilà, alors aujourd'hui, j'ai été prof l'année dernière, prof contractuel, ce qui était intéressant. Aujourd'hui, je travaille avec une association qui s'appelle Hydromonde, avec qui on fait des enquêtes sur le soin et le partage de l'eau dans les territoires. Voilà, donc pour remettre du débat sur ces enjeux fondamentaux, et ça permet de parler de toutes les problématiques actuelles.
Allez, on passe aux questions. Allez, une première question de Victoria, plutôt un message. Est-ce que c'est pas plus facile, dit-elle, de déserter quand on est issu d'un milieu aisé, même si l'acte est courageux, parce que du fait de son origine sociale, on est protégé financièrement ?
Oui, bah c'est exactement ce que j'ai essayé de développer dans le livre et en regardant les réactions au discours de désertion des agros qui bifurquent. En effet, c'est une question de possibilité de choix.
Ouais.
Et donc pour moi, il y a une vraie question qui se pose qui est s'il y a un mouvement de désertion, il doit venir défendre une liberté de dévier pour tous et toutes, une liberté de trouver sa place dans la société. Et en effet, là où certains peuvent déserter, d'autres essayent de lutte pour être accepté et intégré au système, et c'est un vrai réel vecteur d'inégalité.
Un message de Stéphane qui trouve étonnant de déserter en travaillant sur les énergies renouvelables comme vous, alors qu'elles font partie, dit-il, des solutions. Elles permettent de s'affranchir d'une bonne partie des 15 milliards de tonnes d'énergie fossile extraites chaque année. Votre désertion ne permet-elle pas aux énergies fossiles de perdurer, au contraire du but que vous recherchez ?
Alors, comme je le disais, justement, la problématique de la transition aujourd'hui des énergies décarbonées, c'est qu'elles vont reposer sur toujours plus de matériaux qui sont extraits dans des conditions d'extractivisme désastreuses.
Intense, ouais.
Et qui dépendent de la guerre. Nos modes de vie aujourd'hui dépendent de la guerre et ça va être encore plus. Et à l'inverse, les énergies fossiles, c'est les mêmes industries qui proposent cette transition et qui continuent d'exploiter les énergies fossiles. Donc Total n'a pas fini d'exploiter les énergies fossiles. Donc pour moi,
on voit que les investissements sont massifs et dépassent largement les investissements.
Ça s'arrête pas. Donc c'est deux facettes fossiles. Pour moi d'un techno-fascisme, je dirais. Donc voilà, on a Trump avec son drill baby drill, et de l'autre côté on a Elon Musk. c'est juste pour caricaturer, mais dans les deux cas, si ça repose toujours sur un système colonial, extractiviste, injuste, ce ne sont pas les solutions pour l'avenir.
Florence nous dit, c'est bien de bifurquer, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. De quoi vivez-vous ? De quoi vivent ceux qui bifurquent ? J'ai l'impression que ce sont seulement ceux qui sont médiatisés qui s'en sortent. Personnellement, pour moi, dit Florence, c'est RSA, CDD, longue période de chômage.
Oui, eh bien, oui, moi aussi, ça a été RSA pendant un temps. J'ai été travailler comme prof contractuel pour le moment où je finissais mon livre, parce que j'avais besoin aussi de travailler. Donc déserter, c'est pas permanent. Moi, j'ai fait ce choix, j'ai pu faire ce choix. J'étais au Danemark, il y a des aides sociales assez conséquentes là-bas, ça m'a donné la possibilité de le faire. Mmh. En effet, donc comme je le disais encore une fois, moi, j'aimerais bien que déserter, ça puisse être un choix possible pour tous et toutes, et surtout de pouvoir avoir un moment dans la vie où on arrive à se poser la question, où on peut se poser les questions de où on est, où est-ce qu'on a envie d'aller.
Ben justement, sur le collectif, Jean-Louis vous envoie ce message. Respect total, dit-il, quel constat éclairé, oser quitter le confort d'une tour d'ivoire pour descendre dans l'inconfort de la réalité des invisibles, oser parler en pensant collectif et humain et non pas en moi-je, oser démontrer que l'argent n'est plus un moyen mais un but, oser conjuguer le verbe être en priorité par rapport au verbe avoir, oser parler de sens et non pas de profit à court terme. Bravo à vous, dit-il.
Merci. Merci, mais voilà, y a, je pense que, encore une fois, ces choix suscitent des réactions fortes, comme on a vu avec les agros. Ça a été soit encensé, comme si on était des héros, soit justement très critiqué en visibilisant qu'il y a plein d'inégalités et que ce choix, il n'est pas accessible à tous et toutes.
Et alors aujourd'hui, bourgeois voilà, qui se sont permis de le faire.
Voilà, et aujourd'hui, que l'on déserte ou que l'on quitte un métier ou qu'on le reste dedans, si on ne prend pas le temps de se situer, de comprendre à quelle classe sociale on appartient et qu'est-ce qu'on maintient comme système, parce que même en désertant, on peut venir maintenir des inégalités de classe, on va pas avancer. Et du coup, je pense que il faut ni idéaliser ni fustiger. Il faut juste, je pense, poser la question de voilà aujourd'hui travailler où, quand, comment, pourquoi, pour qui surtout. Et moi, j'aimerais bien participer à un mouvement qui pose cette question du travail au sens très très large dans la société.
En tout cas, vous avez lancé le débat avec cet ouvrage qui s'appelle Désertons tout simplement. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent et Wild Project. Merci beaucoup, Jeanne Mermet, d'être venue nous en parler aujourd'hui à ce micro.